Matière à penser.
Une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos.
Avec Fabrice Hadjadj.
Et Gandrine Drapé.
Aujourd'hui, 27e épisode de notre seconde saison sur les pères fondateurs de la pensée occidentale, avec Descartes et la question « La première vérité est-elle « je pense, donc je suis » ?» Comme le note le philosophe Denis Moreau, peu d'énoncés philosophiques ont connu une destinée et acquis une célébrité semblable à celle du « cogito » de Descartes. Depuis la parution du discours de la méthode, il n'est guère de penseur important qui ne se soit senti obligé de donner son avis sur cette affirmation. Et de façon plus frappante encore, le cogito est un des rares, sinon la seule des propositions de philosophie à avoir échappé aux spécialistes pour devenir réellement populaire. De là ses nombreuses reprises parodiques. « Je dépense, donc je suis. J'éponge, donc j'essuie. » Ou encore le très récent « Covido ergo zoom ». Mais quel est le sens de cette parole? Et surtout, comment apparaît-elle dans le texte de Descartes? Ce que nous voudrions aujourd'hui voir, c'est que cette pensée, qui se présente comme la plus logique et la plus déductive, va en vérité de coup de théâtre en coup de théâtre. Et c'est pourquoi elle exercera toujours une profonde fascination. Mais reprenons pour commencer quelques passages de la première et de la deuxième des méditations métaphysiques.
Il y a déjà quelque temps que je me suis aperçu que, dès mes premières années, j'avais reçu quantité de fausses opinions pour véritables. Et que ce que j'ai depuis fondé sur des principes si mal assurés ne pouvait être que fort douteux et incertain. De façon qu'il me fallait entreprendre sérieusement, une fois en ma vie, de me défaire de toutes les opinions que j'avais reçues jusqu'alors en ma créance et commencer tout de nouveau, dès les fondements, si je voulais établir quelque chose de ferme et de constant dans les sciences. Mais cette entreprise me semblant être fort grande, j'ai attendu que j'eusse atteint un âge qui fût si mûr que je n'en pusse espérer d'autres après lui auxquels je fus plus propre à l'exécuter. Ce qui m'a fait différer si longtemps que désormais je croirais commettre une faute si j'employais encore à délibérer le temps qui me reste pour agir. Maintenant donc que mon esprit est libre de tout soin et que je me suis procuré un repos assuré dans une paisible solitude, je m'appliquerai sérieusement et avec liberté à détruire généralement toutes mes anciennes opinions. Or, il ne sera pas nécessaire pour arriver à ce dessein de prouver qu'elles sont toutes fausses, de quoi peut-être je ne viendrai jamais à bout, mais d'autant que la raison me persuade déjà que je ne dois pas moins soigneusement m'empêcher de donner créance aux choses qui ne sont pas entièrement certaines et indubitables qu'à celles qui nous paraissent manifestement être fausses. Le moindre sujet de douter que j'y trouverai suffira pour me les faire toutes rejeter. Et pour cela, il n'est pas besoin que je les examine chacune en particulier, ce qui serait d'un travail infini. Mais parce que la ruine des fondements entraîne nécessairement avec soi tout le reste de l'édifice, je m'attaquerai d'abord aux principes sur lesquels toutes mes anciennes opinions étaient appuyées. Je suppose donc que toutes les choses que je vois sont fausses. Je me persuade que rien n'a jamais été de tout ce que ma mémoire remplie de mensonges me représente. Je pense n'avoir aucun sens. Je crois que le corps, la figure, l'étendue, le mouvement et le lieu ne sont que des fictions de mon esprit. Qu'est-ce donc qui pourra être estimé véritable? Peut-être rien autre chose, sinon qu'il n'y a rien au monde de certain. Ne me suis-je donc pas aussi persuadé que je n'étais point? Non, certes, j'étais sans doute, si je me suis persuadé. Ou seulement si j'ai pensé quelque chose. Mais s'il y a un je ne sais quel trompeur très puissant et très rusé qui emploie toute son industrie à me tromper toujours, il n'y a donc point de doute que je suis s'il me trompe. Et qu'il me trompe tant qu'il voudra, il ne saurait jamais faire que je ne sois rien tant que je penserai être quelque chose. De sorte qu'après y avoir bien pensé et avoir soigneusement examiné toute chose, enfin il faut conclure et tenir pour constant que cette proposition « je suis, j'existe » est nécessairement vraie. Toutes les fois que je la prononce ou que je la conçois en mon esprit, mais je ne connais pas encore assez clairement ce que je suis, moi qui suis certain que je suis. De sorte que, désormais, il faut que je prenne soigneusement garde de ne prendre pas imprudemment quelque autre chose pour moi, et ainsi de ne me point méprendre dans cette connaissance que je soutiens être plus certaine et plus évidente que toutes celles que j'ai eues auparavant.
Fabrice Hadjadj, je m'attaquerai d'abord aux principes sur lesquels toutes mes anciennes opinions étaient appuyées. Quel est le contexte de ce texte ?
Alors c'est bien sûr le grand texte, on pourrait dire, inaugural de la pensée moderne en philosophie. Il y a bien sûr le discours de la méthode qui précède, mais c'est celui-ci qui, à mon avis, a une importance décisive. D'abord parce que, alors même qu'il fait tout autre chose, il est comme une reprise, on pourrait dire, des confessions de Saint-Augustin. C'est-à-dire que quelqu'un qui, dans une retraite, se pose la question de la vérité. Alors, il ne le fait pas sous la lumière de Dieu, s'adressant à lui dans une confession. Il s'agit bien ici d'une recherche de la vérité. Il s'adresse à un lecteur, mais sa démarche n'est pas une démarche simplement logique, comme... On pourrait dire, voilà comment les hommes parlent, analysons leur langage, comme ferait un analyticien aujourd'hui, ou même, d'une certaine façon, comme le faisait Aristote. Il y a d'emblée, et c'est ça qui est très étonnant, un point de départ autobiographique. J'ai reçu dans l'enfance quantité d'opinions, une fois, et là maintenant, il y a cette idée qu'on a des âges de la vie, celui qui parle à un certain âge, il a pris la résolution de tout remettre en cause à un moment donné, mais c'est curieux, quand il était jeune, alors qu'on est tout feu tout flamme quand on est jeune, voilà, c'est un jeune qui avait suffisamment de maturité pour se dire « Ah ben non, pas tout de suite, parce que je n'ai pas encore l'esprit assez mûr. » Il dit « J'attends d'avoir l'esprit. » Il dit « Maintenant, où j'ai atteint, on pourrait dire, la perfection de l'usage de ma raison, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et après, ça sera trop tard, parce que soit je risque de décliner, ou je pourrais mourir. » Et donc, il y a quand même l'idée que cette pensée s'inscrit dans un lieu, cet espace ici, c'est un ce qu'on appelle un poêle, une sorte de studio, qui porte très bien son nom, j'étudie, studio, avec suffisamment de chaleur pour qu'on n'ait pas le souci du froid contre lequel on lutte, voilà, les nécessités, un espace isolé où l'on peut penser soi-même, donc ça c'est vraiment le contexte, et puis un moment du temps particulier entre deux guerres, entre deux participations aux guerres d'Allemagne, donc un moment de retraite où on a quand même été sur un terrain de guerre, on a vu des hommes mourir, C'est jamais thématisé comme tel par Descartes, mais on sait que c'est l'arrière-plan. Et puis, le fait qu'on est vraiment à l'âge de sa vie qui correspond à cette recherche. Il ne faudrait pas l'entreprendre trop jeune ou trop tard. Donc, toute cette démarche hautement spéculative, hautement rationnelle, qui a l'air de dire, bon, on va se débarrasser de tout ce qu'on a reçu et donc de tout ce qui relève de la vie, en réalité, se situe dans un acte de vie et va procéder de telle sorte qu'on va parvenir à ce fondement, apparemment. On verra que c'est pas tout à fait un fondement, parce que c'est, on dit, et ce que je voudrais qu'on voit aujourd'hui, c'est ces coups de théâtre, en fait, comment procède Descartes, parce que ça sera d'ailleurs repris au fond par Hegel, Hegel qui ne cesse de faire surgir une nouvelle figure à partir de la négation de la figure précédente, etc. Mais chez Descartes, il y a déjà cette manière de dire vous croyez que c'est de la déduction, etc. Et on a l'impression d'être un auteur qui est l'auteur de l'analyse, de l'ordre des matières, etc. Mais dans les méditations métaphysiques, c'est une dramaturgie. Et c'est à chaque fois
des choses à quoi on pouvait ne pas s'attendre du tout au préalable.
Si je puis juste me permettre, Fabrice Hadjadj, pour compléter votre analyse, surtout dans ce traité qui est écrit comme six méditations, pour Descartes qui a été à l'école des Jésuites, il y a aussi vraiment cette reprise des exercices un peu à la manière de Saint-Thérèse.
Très certainement, oui. Et d'ailleurs, à la fois le mot méditare en latin renvoyait aux exercices militaires, mais effectivement, il emploie le mot méditation. Alors que le mot du texte précédent, c'était le mot méthode. On est quand même dans quelque chose qui deux registres apparemment distincts, méthode scientifique et méditation, tout d'un coup se conjoignent dans la pensée cartésienne.
Alors Fabrice Hadjadj, venons-en à ce texte d'une densité incroyable. Première chose, point de départ, il y a une nécessité de destruction parce que l'édifice est instable. J'observe dans ma mémoire, il y a trop même de mensonges, va-t-il jusqu'à dire. Point de départ, il faut détruire pour reconstruire.
Oui, c'est un geste qui se veut inaugural et qui est d'autant plus possible qu'après on pourra comprendre rétrospectivement puisque chaque esprit n'est pas une simple partie du monde, mais dans le monde sans être du monde, eh bien chaque esprit est un commencement. D'une certaine façon, il n'est pas juste la suite de l'enchaînement des faits cosmiques. Là, ça n'est qu'une mécanique. Donc vraiment, ce que fait Descartes, c'est en fait légitimé par la nature même du je pense, qui n'est pas une partie du monde ni une simple partie de l'histoire, une simple déduction de l'histoire. On ne peut pas le déduire entièrement parce que c'est dans ce monde matériel quelque chose qui se distingue nettement de la matière. Et alors, bien sûr, il ne s'agit pas de montrer que tout ce qu'on pensait auparavant était faux. Ce n'est pas du tout ça. Il s'agit de montrer que c'est suffisamment incertain pour ne pas être le fondement, le point d'Archimède qui permettrait de soulever tout d'un coup tout l'édifice d'une science assurée. Et donc, il s'agit simplement de révoquer en doute, et non pas de démontrer la fausseté d'eux. Puisque même plusieurs choses, par exemple, je peux douter de la vérité de ce que me rapportent mes sens, mais ça ne veut pas dire que mes sens me trompent comme tels. C'est qu'ils ont pu me tromper, donc ils ne sont pas suffisamment assurés, c'est tout. Puisqu'après, à partir du cogito et de l'existence de Dieu, Descartes va reconquérir la vérité du donné sensible. Mais ça ne peut pas être le point de départ. Alors que, on pourrait dire, chez Aristote, le donné sensible est un point de départ. La nature existe, on n'a pas à le démontrer. C'est une évidence, elle est là, alors que Descartes ne prend pas ce point de départ de la nature.
Oui, il ne faut pas oublier que Descartes se situe quand même quelques années après Montaigne, après le regain de pyrrhonisme qui influence énormément l'intellectualité française de l'époque. Et donc, on a pris habitude de douter de tout pour le rejeter. Et donc, il y a une position sceptique et Descartes cherche justement à lutter contre ce scepticisme.
C'est ça le coup de théâtre. Le coup de théâtre premier, c'est ça. C'est qu'il dit, bon, ok, on va douter, on va détruire. Vous voulez détruire ? Détruisons. Allons même plus loin que vous, parce que je vais pousser le doute encore plus loin que vous. Ce qu'on appelle le doute hyperbolique de Descartes. Donc, je ne vais pas simplement douter de tel ou tel, je vais douter que je suis éveillé, que le monde existe, et même, je peux douter que 2 plus 2 égale 4. Parce qu'il peut se faire qu'il y a un malin génie qui, à chaque fois que je pense, me fasse me tromper. Et donc, même ce qu'on appelle les vérités éternelles, les vérités mathématiques, sont remises en cause au départ par Descartes. Ce qui montre bien que le point de départ de Descartes n'est pas non plus les mathématiques. Alors, c'est pas ça qui est suffisamment assuré. Donc, allons jusqu'au bout et poussons le doute jusqu'au bout. Et le premier coup de théâtre, c'est que ce doute, on pourrait dire, qui ne laisse rien, à l'abri de son décapage, de sa remise en question, aboutit à une certitude. Alors, il y aura un second coup de théâtre cartésien, à mon avis, à propos du doute, qui sera dans les passions de l'âme. Mais ici, le coup de théâtre, c'est de dire, pour que je doute, il faut que je pense. Donc, je pense, je suis, j'existe. Ça, c'est indubitable.
Donc, c'est le doute même qui produit de l'indubitable. Le doute même me montre que indubitablement, je doute. Donc, je pense, voilà. Alors, sachant que le donc ici n'est pas tout à fait un donc de déduction, mais de coexistence, enfin voilà, de co-implication. Donc, il est là, voilà. Dans les passions de l'âme, ça sera de nous montrer que. Mais c'est déjà ce qu'on va voir ici, en fait. Hein. Mais dans les passions de l'âme, la première motion de l'esprit, c'est d'abord l'admiration. Donc, en fait, le doute est postérieur d'abord à l'admiration. Et ici, il va y avoir un second coup de théâtre, qui est de dire, mais si je doute, si je n'arrive pas à me contenter de choses relatives, partielles, etc., c'est parce que j'ai en moi l'idée de perfection. Non pas d'une petite vérité relative, non, mais de la vérité. Alors que moi, je doute, je ne suis pas parfait. Comment se fait-il que j'ai en moi cette idée de perfection, moi qui ne suis pas parfait ? C'est que quelqu'un l'y a mis, ce qui est le parfait. Et donc, deuxième coup de théâtre, le parfait existe. Et c'est parce que je doute que Dieu existe. C'est pas l'inverse. Ça, c'est le coup de théâtre encore. On se dit, mais voilà. Mais en même temps, c'est implacable. Si je n'avais pas en moi l'idée d'une vérité absolue, et d'où me viendrait cette idée, si ce n'est de l'absolu même, voilà ce que dit Descartes, eh bien alors, c'est parce que j'ai ce besoin de vérité absolue, cette aspiration à vérité, qui a été mise en moi, que je doute. Et que je doute que je ne peux pas me contenter que d'une certaine façon, à la différence des autres animaux, j'ai cette sorte d'écart par rapport au monde, de mise à distance du monde, de mise à distance de ce que je perçois, de remise en... Mais la remise en question, c'est l'acte de l'absolu, l'attraction de l'absolu en nous. Et ça, c'est génial. C'est autre coup de théâtre. Dieu existe parce que nous doutons, et que parce que nous doutons même de Dieu.
Vous écoutez Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec notre question aujourd'hui. La première vérité est-elle « je pense, donc je suis ». Alors Fabrice Hadjadj, est-ce que vraiment, pour revenir un peu, pour préciser un petit peu ces coups de théâtre, bon déjà, la formule « je pense, donc je suis » n'est pas ici. Ici, il dit « je suis, j'existe ».
Oui, alors « je pense, donc je suis » n'est pas ici. D'abord, c'est un texte en latin. Bon, « je pense, donc je suis » se trouve dans le discours de la méthode, avec toute la question de savoir ce « donc », pourquoi il a introduit ce « donc », alors qu'ici, c'est « je suis, j'existe ». Je pense, je suis, j'existe. Voilà, il n'y a pas de donc. Puis dans d'autres textes plus tardifs, on trouvera quand même on trouvera plutôt ego sum ergo cogito. Donc en fait, le cogito ergo sum, je pense, ne se trouve pas comme tel dans le texte de Descartes.
Jamais en latin,
en tout cas.
Dans le discours de la méthode.
Et en tout cas, pas dans les méditations métaphysiques. Donc, c'est bon, on peut accepter, voilà, je pense donc je suis, cogito ergo sum. Mais on le voit à la fin de ce texte, je suis, mais ce que je suis n'apparaît pas encore. Voilà, ça c'est la chose la plus certaine et la plus évidente, mais en même temps, c'est une sorte d'évidence sans contenu. Et ça, c'est très... très important. Mais ce qui se joue ici aussi, et qui est un autre coup de théâtre, on pourrait dire, c'est que la science objectiviste de Descartes, qui voit le monde comme de l'étendue, un espace géométrique, constitué d'éléments, une mécanique que l'on pourrait donc comprendre, manipuler, recomposer comme une machine qu'on aurait. Donc on discernerait les pièces, on pourrait les réagencer autrement et construire d'autres choses. Donc cette science, cette technoscience, repose non pas sur des choses objectives, mais sur la certitude du sujet existant. Donc déjà, le point qui est fondamental ici, c'est que personne, du point de vue cartésien, ne pourra pas dire, par exemple, que la pensée est le produit du cerveau. Parce que le cerveau est un objet de pensée, et c'est plutôt cet objet de pensée, c'est plutôt le cerveau qui est dans la pensée que la pensée dans le cerveau. Donc, à partir de là, tout objet est toujours pensé par un sujet, et c'est le sujet qui enveloppe le monde objectif plutôt que l'inverse. Bien sûr que mon corps fait partie de ce monde et que mon corps est enveloppé par le monde, dans le monde, et du monde, une partie du monde, mais ma pensée, non. Et, puisque c'est ma pensée qui peut discerner les différentes parties du monde. Donc déjà, Descartes, qui fonde cette science contemporaine, la borne immédiatement en lui disant « Attention, la pensée n'est pas ce que vous pouvez objectiver. Ce n'est pas un objet qui est… » Non, c'est elle qui est la lumière qui vous permet de voir les choses, donc vous ne pouvez pas tout d'un coup en faire une couleur parmi d'autres.
Mais Fabrice Hadjadj, est-ce qu'il n'y a pas un risque ici on ne voit pas bien, à la fin de ce texte, comment on va pouvoir reconstruire la science. Est-ce que vraiment c'est un fondement,
Il y a un double fondement, parce que je suis, j'existe, justement, est sans contenu, et la question reste, il y a une double question. Je peux dire je suis, mais est-ce que c'est toujours le même qui pense à travers le temps? Il y a cette question-là, parce que je pourrais me tromper là-dessus. Donc je suis, j'existe, mais est-ce, pour qu'il y ait un contenu, il faut quand même donner une consistance aux actes successifs de pensée et à ma mémoire. Donc ça, c'est un premier point. Et deuxième chose, le fait qu'il faut aussi que je reconquière l'existence du monde extérieur, etc. Et ça, ça va se faire à partir de l'existence de Dieu. C'est-à-dire Dieu est, parce que si j'ai douté, j'ai aussi en moi cette idée d'absolu ou de parfait. Et donc, ce parfait est. Mais si ce parfait est, à ce moment-là, il ne peut pas être trompeur. Le malin génie est comme repoussé, on est exorcisé du malin génie qui nous poussait même à douter des vérités mathématiques, parce qu'il y a un Dieu qui est bon. Et à ce moment-là, si c'est lui qui est le créateur, ma sensibilité ne peut pas me tromper toujours, ne peut pas. Et cette reconquête du monde, voilà. Et ça, c'est le coup de théâtre. Du point de vue de ma vie sensible, de ma vie ordinaire, j'ai l'impression que le monde extérieur est, c'est indubitable, et c'est l'existence de Dieu que je pourrais remettre en cause. Mais du point de vue de la science, enfin, plutôt de l'ordre de la certitude instaurée par Descartes, je suis plus certain de l'existence de Dieu que de l'existence du monde extérieur. Et c'est sur l'existence de Dieu, d'un Dieu bon, que je peux fonder vraiment, en toute certitude, le fait que le monde extérieur existe et que mes sens ne me trompent pas ou que je ne suis pas en train de dormir. Donc ça encore, aucun, je veux dire, successeur de Descartes n'osera aller aussi loin. Que ce soit même Malebranche, même Leibniz, enfin, cette affirmation que l'existence de Dieu est plus certaine que, que celle du monde extérieur, et que c'est l'un et le fondement de l'autre, voilà, ça c'est exceptionnel.
Et à partir de là, comment intégrer autrui? Est-ce qu'il n'y a pas une limite aussi est-ce que autrui ne disparaît pas forcément de l'horizon philosophique de Descartes? Lui qui avait pourtant un tel souci...
Non, parce que... Mais je pense qu'autrui, dès lors... J'ai en face de moi, si vous voulez, votre corps, Galdric, qui est d'une certaine façon une machine. Mais une machine, parce qu'on oublie souvent les dernières méditations. Donc, il y a deux principes chez Descartes. La chose étendue, la res extensa, la machine, on pourrait dire, et la res cogitans, la chose pensante. Mais il y a un troisième principe qui est l'union des deux, qui fait qu'on le voit comme une seule chose, dit-il. Attention. Et il y a le mystère de l'union des dieux. Et on pourrait dire qu'il y a chez Descartes l'idée que quand je suis face à un homme, je vois un corps que je pourrais réduire à une machine. Et en même temps, par ce regard, il y a justement une chose qui pense, et je le perçois à partir de mon propre ego cogito, et je l'induis je le déduis à partir de le fait que Dieu m'ouvre l'existence du monde, que l'autre est là, qu'il parle aussi, ça veut dire que par le regard ou par ce que je pourrais ne voir que comme une machine, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui est au-delà de toute mécanique et qui est justement l'effraction dans le monde par le regard de quelque chose qui n'est pas du monde. Et ça, c'est étonnant parce que même si c'est pas ce thème-là, de la relation à autrui, dont parle Descartes, il s'intéresse aux sciences, hein, bien sûr. Mais on pourrait y voir déjà la naissance de quelque chose, une manière de voir qu'on retrouvera chez Emmanuel Lévinas ou chez d'autres, ou même chez Sartre, hein, d'une certaine façon. Donc, il y a quand même ici, voilà, encore ce coup de théâtre cartésien, l'autre que je pourrais décomposer comme une machine, et en même temps, il y a derrière quelque chose qui est irréductible à la machine.
Merci Fabrice. C'était Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec René Descartes, Fabrice Hadjadj, Galdric Drapé et Michael Durmeyer à la technique. Retrouvez-nous tous les lundis à 18h30, les samedis à 10h30, et bien sûr en podcast sur les sites de Radio Notre-Dame et de Philanthropos. À très bientôt, et n'oubliez pas que vous êtes intelligents.